Chapitre 10. La dernière valse. Horreur et morale. Horreur et magie. 1.
Oui, mais vous gagnez votre vie en exploitant les craintes des gens. Comment vous justifiez-vous?
2. Les policiers ont été alertés par un voisin qui a entendu des bruits de lutte. En entrant dans la maison, il découvre un véritable bain de sang et quelque chose de bien pire. Le jeune homme avoue d'une voix posée qu'il a tué sa grand-mère avec une barre de fer et lui a tranché la gorge.
« J'avais besoin de son sang, » déclare-t-il au policier. « Je suis un vampire. Si je n'avais pas bu son sang, je serais mort. »
Dans sa chambre, les policiers trouvent des coupures de presse, des bandes dessinées et des romans, tous consacrés aux vampires.
3.
Jusque-là, le déjeuner se passait bien, et j'en étais reconnaissant aux journalistes du Washington Post. La veille, je me trouvais à New York, première des 12 étapes de la tournée de promotion de mon roman Dead Zone, où mon éditeur Viking donnait un cocktail de lancement à la Tavern on the Green, un immense restaurant de style rococo situé tout près de Central Park. Je m'étais efforcé de boire avec modération lors de ce cocktail, mais j'avais quand même éclusé 8 ou 9 bières, auxquelles étaient venues se rajouter les 6 ou 7 canettes que m'avaient offertes des copains du Maine lors de la soirée entre amis qui avait suivi. J'avais quand même réussi à me réveiller à 5h moins le quart pour prendre le vol de 6h à destination de Washington, où j'étais attendu à 7h pour parler de mon bouquin à la télé. La rançon de la gloire. J'avais embarqué à l'heure dite, puis je m'étais mis à réciter un chapelet invisible dès que l'avion avait décollé en pleine tempête. Mon voisin, un homme d'affaires obèse, avait passé le trajet à lire le Wall Street Journal et à croquer des pilules contre les maux d'estomac comme si c'était des toffees. Arrivant au studio 10 minutes avant le début de l'émission AM Washington. L'éclat des projecteurs avait aggravé ma légère migraine et je n'avais commencé à me détendre que lorsque j'avais retrouvé ce journaliste du Washington Post dont les questions s'avéraient intéressantes et relativement peu menaçantes. Et puis voilà qu'il me lance à brûle-pourpoint cette remarque provocatrice. Le journaliste, un homme jeune et efflanqué, me regardait de ses yeux pétillants au-dessus de son sandwich.
4.
Nous sommes dans l'Ohio, en 1960, et un jeune homme solitaire vient de quitter le cinéma où il a vu Psychose pour la 5e fois. Il rentre chez lui et tue sa grand-mère à coups de couteau. Le médecin légiste dénombrera plus de 40 blessures distinctes.
Pourquoi ? Demandent les policiers.
À cause des voix, répond le jeune homme. Ce sont des voix qui m'ont dit de faire ça.
5.
Écoutez, j'ai dit en reposant mon sandwich. Considérez un psychiatre exerçant dans une grande ville. Il a une superbe maison en banlieue. Une maison qui vaut au moins 100 000 $. Il conduit une Mercedes-Benz de couleur tabac ou gris argenté. Sa femme conduit un Break Country Squire. Ses enfants fréquentent une école privée durant l'année scolaire et il séjourne chaque été dans un bon camp de vacances de la Nouvelle-Angleterre. Son fils est sûr d'entrer à Harvard si ses notes le lui permettent. L'argent ne pose pas de problème. Et sa fille ira dans une fac cotée dont la devise est « Nous ne conjuguons pas, nous déclinons ». Et comment gagne-t-il l'argent nécessaire au financement de toutes ces merveilles? En écoutant des femmes qui se lamentent sur leur frigidité, des hommes qui lui confient leurs pulsions suicidaires, des paranoïaques de toutes sortes et même parfois un ou deux authentiques schizophrènes. Il traite des personnes qui, dans leur immense majorité, sont mortes de trouille à l'idée que leur vie est foutue et que les choses se déglinguent autour d'elles. Et si ce n'est pas gagner sa vie en exploitant les craintes des gens, alors, je ne vois vraiment pas ce que c'est. J'ai repris mon sandwich et j'en ai mordu une bonne bouchée, persuadé que si je n'avais pas vraiment répondu à cette question provocatrice, j'avais au moins réussi à la détourner de façon satisfaisante. Mais lorsque j'ai levé les yeux, le petit sourire qui éclairait le visage du journaliste s'était éteint. « Il se trouve, dit-il, que je suis en analyse. »
6.
Janvier 1980. La jeune femme a longuement consulté sa mère au sujet de son bébé de 3 mois. Il ne cesse pas de brailler. Il braille tout le temps. Les deux femmes déterminent l'origine de ce problème.
Le bébé est possédé par un démon, comme la petite fille dans l'exorciste. Elle verse de l'essence sur le bébé qui braille toujours dans son berceau et y met le feu pour en chasser le démon. Le bébé survit pendant 3 jours au service des grands brûlés, puis il décède.
7. L'article du journaliste s'avéra finalement plutôt objectif. Il émettait quelques remarques déplaisantes sur mon aspect physique, mais ce n'était pas sans raison. J'étais particulièrement peu soucieux de ma personne durant cet été 1979, et je pense néanmoins avoir été relativement bien traité. Mais en lisant attentivement sa prose, on sent à quel instant nos routes divergent. Comme si on entendait le bruit que font 2 idées en se séparant pour courir dans des directions opposées.
On a l'impression que King adore ce genre de joute verbale, écrit-il.
8. Boston, 1977. Une femme est tuée par un jeune homme avec une quantité invraisemblable d'ustensiles de cuisine. Les enquêteurs supposent que cette idée lui a été inspirée par un film, Carrie, de Brian De Palma, d'après le roman de Stephen King. Dans ce film, Carrie cloue sa mère au mur en projetant à l'autre bout de la pièce toutes sortes d'ustensiles de cuisine, parmi lesquels un tire-bouchon et un épluche-légumes.
9.
Pendant plus de 10 ans, les chaînes de télévision américaines ont résisté aux groupes de pression déterminés à bannir toute violence du petit écran, ainsi qu'aux innombrables commissions d'enquête formées par le Sénat et la Chambre des représentants afin d'étudier ce problème. Même après les assassinats de John Kennedy, de Robert Kennedy et de Martin Luther King, les détectives privés ont continué de dégainer leurs pétards et de recevoir des coups de matraque sur la tête. Tous les soirs de la semaine, y compris le dimanche, il suffisait de changer de chaîne pour avoir sa dose de carnage. La guerre du Vietnam suivait tranquillement son cours, merci pour elle. La liste des morts et des disparus s'allongeait inexorablement. Les pédopsychiatres affirmaient que, après avoir regardé 2 heures de violence à la télé, les enfants manifestaient une agressivité accrue au cours de leur jeu. Ils tapaient leur petite voiture sur le plancher plutôt que de les faire rouler dessus, par exemple.
10.
Los Angeles, 1969. Janis Joplin, qui mourra peu après d'une overdose, chante à plein poumon « Ball and Chain ». Jim Morrison, qui mourra d'une crise cardiaque dans une baignoire, chante « Kill, 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 kill » à la fin d'une chanson intitulée « The End ». Francis Ford Coppola l'utilisera 10 ans plus tard en fond sonore du prologue d'Apocalypse Now. Newsweek publie la photo d'un soldat américain au sourire timide brandissant une oreille coupée. Et dans la banlieue de Los Angeles, un petit garçon crève les yeux de son frère avec ses doigts. « Il voulait seulement imiter les 3 Stooges qui font ça dans leur film », explique-t-il en sanglotant. « Quand ils font ça à la télé, personne n'a jamais mal. »
11.
Mais on voyait toujours de la violence à la télévision. Même après que Charles Whitman fut monté sur la Texas Tower avec son fusil. Il y avait une rumeur sur une tumeur, nichée au fond de son cerveau. Chantait Kinky Friedman and the Texas Jew Boys. Et ce qui a fini par la tuer, ce qui a engendré la décennie des sitcoms que furent les années 1970, c'est un événement d'une importance négligeable comparé à l'assassinat d'un président, d'un sénateur ou d'un grand défenseur des droits civiques. Les dirigeants des chaînes ont été obligés de réviser leur position parce qu'une jeune fille est tombée en panne d'essence à Roxbury. Malheureusement pour elle, elle avait un bidon dans son coffre. Elle l'a fait remplir dans une station-service et alors qu'elle regagnait sa voiture, elle a été agressée par une bande de jeunes noirs qui lui ont pris son bidon, l'ont aspergé d'essence et, tout comme la jeune femme et sa mère qui cherchaient à chasser le démon du bébé, ont mis le feu à ses vêtements. Elle est décédée quelques jours plus tard. Les jeunes voyous ont été arrêtés, et on leur a posé la question banco. « Qu'est-ce qui vous a donné une idée aussi horrible ?»« La télé », ont-ils répondu. « Le film qui passait sur ABC. » Vers la fin des années 1960, Ed McBain, qui publie aussi sous le nom d'Evan Hunter, a écrit un des meilleurs romans de sa série du 87e district. Ce roman s'intitule « La Rousse » et décrit les agissements d'une bande d'adolescents qui aspergent les clochards d'essence et y mettent le feu. L'adaptation cinématographique de ce roman, « Les poulets », que Stephen Schreier décrit dans son précieux guide « Movies on TV » comme une comédie écervelée, est interprétée par Burt Reynolds et Raquel Welch. Lors de la scène la plus comique de ce film, plusieurs flics déguisés en bonnes sœurs se lancent à la poursuite d'un suspect, retroussant leurs robes pour révéler de lourdes grolles. Qu'est-ce qu'on rigole ! Le roman de McBain n'a rien de rigolo. C'est une œuvre d'une noire beauté. Jamais McBain n'a brossé un portrait plus réaliste de la condition de policier que dans ce livre, à la fin duquel Steve Carella, déguisé en clochard, est à son tour la proie des flammes. Les producteurs qui ont acheté les droits de ce bouquin y ont vu un mélange de MASH et de La Cité sans voile. Et leur produit fini est aussi peu mémorable qu'un lancé de Tracy Stallard. Sauf que c'est grâce à une balle lancée par Stallard que Roger Maris a battu un jour son record à Fenway Park. Et c'est ainsi que Les Poulets, ce film aussi mal fichu que mal inspiré, a sonné le glas de la violence à la télé. Verdict ? C'est vous les responsables. Et les dirigeants des chaînes ont accepté ce verdict. 12. Un beau jour, un critique demanda à Sir Alfred Hitchcock « Comment justifiez-vous la violence de la scène de la douche dans Psychose ?»«
Comment justifiez-vous la première scène d'Hiroshima, mon amour ?» aurait répliqué Hitchcock.
Dans cette scène, qui semblait bien scandaleuse pour l'Amérique de la fin des années 1950, on voit Emmanuel Riva et Eiji Okada s'étreignant dans le plus simple appareil.
Cette scène est nécessaire à l'intégrité du film, répondit le critique.
C'est aussi le cas de la scène de la douche dans Psychose, dit Hitchcock. 13. Quelle est à cet égard la part de responsabilité de l'écrivain, et en particulier de l'écrivain d'horreur? Pas un seul des auteurs ayant œuvré dans ce genre, excepté peut-être Shirley Jackson, n'a été considéré sans une certaine méfiance. Cela fait plus de 100 ans que l'on remet en question la moralité de la littérature d'horreur. Varney the Vampire, un des précurseurs les plus sanglants de Dracula, fut à son époque qualifié de « penny dreadful ». Par la suite, l'inflation devait transformer les « penny dreadfuls » en « dime dreadfuls ». Durant les années 1930, certains prétendirent que des pulps comme « Weird Tales et Spicy Stories », dont les couvertures étaient souvent ornées de scènes sadomaso où des jolies filles en petite tenue étaient menacées par des créatures de la nuit bestiales, mais de sexe indubitablement masculin, exerçaient une influence néfaste sur la jeunesse américaine. Et durant les années 1950, les éditeurs de bandes dessinées causèrent la disparition des EC Comics et instituèrent un « Comics Code », quand il devint évident à leurs yeux que le Congrès était prêt à faire le ménage chez eux s'ils ne se chargeaient pas de cette tâche. Fini les histoires de dépeçage, de cadavres revenus d'entre les morts et d'enterrements prématurés. Du moins pour un temps. Leur retour fut signalé par la naissance discrète de Creepy, un magazine publié par la firme Warren qui faisait explicitement référence aux EC Comics de William Gaines. L'oncle Creepy et le cousin Eerie, qui fit son apparition 2 ans plus tard, se substituèrent sans peine à la vieille sorcière et au gardien de la crypte. Et on retrouvait même certains dessinateurs de l'âge d'or des EC Comics, si mes souvenirs sont bons, Joe Orlando, qui fit ses premières armes dans l'écurie de Gaines, figurait au sommaire du premier numéro de Creepy. À mon humble avis, on a toujours eu tendance, surtout en ce qui concerne des formes aussi populaires que le cinéma, la télévision et ce que j'ai appelé plus haut la fiction générale, à tuer le messager quand le message est déplaisant. Je ne doute pas, et je n'ai jamais douté que ces crétins de Roxbury s'étaient inspirés des poulets pour commettre leurs crimes. Mais si ce film n'avait pas été diffusé à la télé, leur stupidité et leur manque d'imagination les aurait certainement réduits à tuer cette malheureuse jeune fille d'une façon plus banale. Idem pour les autres cas que j'ai rappelés dans les pages qui précèdent. La danse macabre est une valse avec la mort. Nous ne pouvons pas nous permettre de nier cette vérité. À l'instar des attractions foraines qui font référence à la mort violente, L'histoire d'horreur nous donne la possibilité de voir ce qui se passe derrière des portes que nous maintenons d'ordinaire fermées à double tour. Car l'imagination humaine ne se satisfait jamais d'une porte fermée. « Notre partenaire nous attend derrière cette porte, » murmure-t-elle. « Une femme vêtue d'une robe de soirée pourrissante, aux orbites vides, aux gants couverts de moisissures, aux rares cheveux grouillants de verre. Tenir une telle créature entre nos bras? Qui serait assez fou pour avoir une pareille idée, me demandez-vous? Qui ?»«
Tu ne voudras pas ouvrir cette porte, »
dit Barbe Bleue à son épouse dans la plus horrible de toutes les histoires d'horreur, « car ton mari te l'interdit. » Mais ceci ne fait qu'exciter sa curiosité, laquelle finit par être satisfaite.
« Vous pouvez aller où vous le désirez dans ce château, » dit le comte Dracula à Jonathan Harker, « sauf dans les chambres fermées à clé et où, bien entendu, vous ne voudriez pas pénétrer. »
Mais Harker finit par aller dans ses chambres. Et nous faisons la même chose. Si nous franchissons la porte ou la fenêtre interdite, c'est peut-être parce que nous savons qu'il viendra un moment où nous devrons le faire, que ça nous plaise ou non. Et pas simplement pour jeter un coup d'œil derrière, mais pour y être précipité, pour l'éternité. 14. Baltimore, 1980. La jeune femme attend son autobus en bouquinant. Le soldat démobilisé qui l'aborde est un vétéran du Vietnam qui consomme parfois de la drogue. Il souffre de troubles mentaux datant de son service militaire. La jeune femme l'a déjà remarqué dans le bus. Il lui arrive parfois d'agiter les bras, de vaciller sur ses jambes ou encore de parler à des gens qu'il est le seul à voir.
« C'est ça, capitaine !»
crie-t-il parfois.
« C'est ça, c'est ça !»
L'ex-soldat agresse la jeune femme qui attend son bus. Plus tard, les policiers supposeront qu'il avait besoin d'argent pour se procurer de la drogue. Aucune importance. Quel qu'ait été son but, il l'aura conduit à la mort. Le quartier où se passe cette scène est dangereux. La jeune femme a dissimulé un couteau sur sa personne. Elle s'en sert au cours de la lutte. Quand l'autobus arrive, le cadavre du vétéran gît dans le caniveau. « Quel livre lisiez-vous ? » demande à la jeune femme un journaliste curieux. Elle lui montre « Le fléau » de Stephen King. 15. Une fois qu'on a débarrassé leurs déclarations de leur vernis sémantique, les adversaires des histoires d'horreur, ou ceux qui ont tout simplement honte de les aimer, semblent nous dire la chose suivante. Vous vendez la mort, la mutilation et la monstruosité. Vous exploitez la haine et la violence, le mépris et la morbidité. Vous n'êtes qu'un représentant des forces du chaos qui mettent notre monde en danger. Bref, vous êtes immoral. Après la sortie de Zombie, un critique demanda à George Romero s'il pensait que son film, où abondaient les scènes d'horreur, de violence et de cannibalisme, témoignait d'une société en bonne santé. En guise de réponse, Romero, faisant preuve d'autant d'esprit que Hitchcock dans l'anecdote rapportée plus haut, demanda au critique s'il pensait que la chaîne de montage des moteurs du DC-10 témoignait d'une société en bonne santé. Le critique jugea cette réponse évasive. Je l'entends presque penser. On a l'impression que Romero adore ce genre de joute verbale. Eh bien, regardons ça d'un peu plus près et creusons un peu plus la question, si vous le voulez bien. Il commence à se faire tard, l'orchestre joue la dernière valse, et si nous ne disons pas certaines choses maintenant, je pense que nous ne les dirons jamais. Je me suis efforcé de suggérer dans ce livre que l'histoire d'horreur, sous son masque velu et plein de dents, est en fait aussi conservatrice qu'un républicain de l'Illinois en costume trois pièces. Que son but est avant tout de réaffirmer les vertus de la norme en nous montrant le sort funeste réservé à ceux qui s'aventurent dans les territoires tabous. La plupart des histoires d'horreur reposent sur un code moral si rigide qu'il ferait sourire un puritain. Dans les EC Comics, les époux infidèles étaient toujours punis, et les assassins subissaient un châtiment à côté duquel une séance de torture ressemblerait à une partie de plaisir. En fin de compte, les histoires d'horreur contemporaines ne sont guère différentes des contes moraux des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Non seulement ce sont de farouches partisans des dix commandements, mais en outre elle les hurle à plein poumon, plutôt que de les réciter d'une voix de stentor. Quand les lumières s'éteignent dans le cinéma, ou quand nous ouvrons les pages du livre, nous savons parfaitement que les méchants seront punis, œil pour œil et dent pour dent, et cela nous rassure. Je suis allé jusqu'à utiliser une métaphore universitaire plutôt prétentieuse, suggérant que l'histoire d'horreur décrit l'irruption d'une démence dionysiaque dans un univers apollinien, et que l'horreur persiste jusqu'à ce que les forces dionysiaques aient été repoussées et la norme apollinienne restaurée. Si l'on fait abstraction de son prologue impressionnant mais incompréhensible se déroulant en Irak, L'Exorciste de William Friedkin débute en fait à Georgetown, banlieue apollinienne s'il en fut. Dans la première scène, Ellen Burstyn est réveillée par un rugissement provenant du grenier. On dirait que les lions sont lâchés là-haut. C'est la première fêlure dans l'univers apollinien. Bientôt va s'y déverser tout un torrent de cauchemars maléfiques. Mais cette fêlure donnant sur un monde chaotique où les démons sont capables de posséder une enfant innocente finit par être refermée à la conclusion du film. Lorsque vient la scène finale, où Burstyn conduit vers sa voiture une Linda Blair pâle, mais de toute évidence guérie, il est clair à nos yeux que le cauchemar est terminé. Le statu quo a été rétabli. Nous avons réussi à bouter le mutant hors de notre monde. Jamais l'équilibre ne nous a paru aussi parfait. Telles sont certaines des idées que nous avons examinées dans ce livre. Mais s'il ne s'agissait que de faux-semblants? Je ne veux pas dire que tel est effectivement le cas, mais, puisque nous dansons la dernière valse, peut-être devrions-nous au moins envisager cette possibilité. Quand nous avons discuté des archétypes, nous avons mentionné celui du loup-garou, cet être tantôt horriblement velu et tantôt trompeusement lisse. Et s'il existait un loup-garou à double détente? Le créateur d'histoires d'horreur, comme nous l'avons dit, est sans doute un républicain en costume trois pièces sous son masque velu et plein de dents. Mais supposez que son apparence d'agent de la norme dissimule en fait un véritable monstre, une créature pourvue d'authentiques crocs et d'un nid de serpent en guise de chevelure. Et si tout ceci n'était qu'un mensonge? Et si le créateur d'histoires d'horreur, une fois débarrassé de tous ses oripeaux, était en fait un démon, un agent du chaos aux yeux écarlates et au sourire acéré. Que dites-vous de ça, mes amis? 16. Il y a environ 5 ans, après avoir fini d'écrire Shining, j'ai pris un mois de vacances, puis j'ai commencé à bosser sur un nouveau bouquin dont le titre de travail était « The House on Value Street ». Ce devait être un roman à clé évoquant le kidnapping de Patty Hearst, son lavage de cerveau, ou sa prise de conscience idéologique, diront peut-être certains, sa participation à une attaque de banque, puis à la bataille rangée autour du repère de la SLA à Los Angeles. Dans mon livre, le dit repère était une maison de Value Street, d'où le titre, et à la cavale qui s'en suivit. Bref, tout le bazar. Le sujet me paraissait brûlant. Et même si je savais que quantité d'ouvrages documentaires allaient lui être consacrés, il me semblait que seule une œuvre de fiction serait à même d'en expliquer toutes les contradictions. Le romancier, après tout, est le petit menteur du bon Dieu, et s'il fait bien son boulot, s'il réussit à ne perdre ni pied ni courage, il arrive parfois à trouver la vérité qui vit au centre du mensonge. Je n'ai jamais écrit ce bouquin. J'ai rassemblé la documentation nécessaire, c'est-à-dire pas grand-chose. Patty était encore en fuite à ce moment-là, ce qui me convenait parfaitement. J'étais libre d'imaginer la fin que je voulais. Puis j'ai attaqué mon bouquin. Je l'ai attaqué sur un flanc et rien ne s'est passé. Je l'ai attaqué sur un autre et j'avais l'impression de progresser jusqu'au moment où je me suis aperçu que mes personnages semblaient tout droit sortis du marathon dansant dont on achève bien les chevaux, le roman d'Horace McCoy. J'ai adopté un nouvel angle d'attaque. J'ai essayé d'imaginer que mon bouquin était une pièce de théâtre, un truc qui est souvent payant pour moi quand je me retrouve coincé. Et ça n'a pas marché. Dans son merveilleux roman « The Hair of Harold Rooks », Thomas Williams compare l'écriture d'un long bouquin à un rendez-vous de personnages sur une immense plaine enténébrée. Ils se rassemblent autour du petit feu de camp qu'a allumé l'imagination de l'auteur, se réchauffant les mains et espérant que cet humble foyer va devenir un brasier, leur fournissant lumière et chaleur. Mais il arrive souvent que les flammes s'éteignent, que la lumière s'évanouisse et que les malheureux soient étouffés par les ténèbres. C'est une excellente métaphore du processus créatif, mais ce n'est pas la mienne. Peut-être est-elle trop aimable pour que je la fasse mienne. J'ai toujours considéré le roman comme un immense château noir, un bastion que je dois investir par la force ou par la ruse. Et ce château semble grand ouvert. Nullement en état de siège. Son pont-levis est abaissé, sa herse relevée, ses tourelles vides d'archers. Le problème, c'est qu'on ne peut y accéder que par une seule entrée. Toutes les autres dissimulent des pièges aussi invisibles que meurtriers. J'ai passé 6 semaines à chercher en vain la voie d'accès à mon bouquin sur Pattyhurst. Et pendant ce temps-là, quelque chose me travaillait l'esprit de façon insidieuse. C'était un article consacré à une fuite de culture virale survenue dans l'Utah. Ces satanés virus s'étaient échappés de leur conteneur et avaient tué quelques moutons. Mais à en croire le journaliste, si le vent avait soufflé dans l'autre sens, les bons citoyens de Salt Lake City auraient eu une drôle de surprise. Cet article me rappelait un roman de George R. Stewart intitulé « La Terre demeure ». Dans le livre de Stewart, l'humanité est pratiquement anéantie par une épidémie de peste, et le héros, immunisé grâce à une morsure de serpent reçue à point nommé, assiste aux transformations écologiques causées par la disparition de l'homme. La première moitié de ce bouquin est passionnante. La seconde est un peu trop poussive, trop d'écologie, pas assez d'histoire. À ce moment-là, ma famille et moi demeurions à Boulder, Colorado, et j'écoutais régulièrement une station de radio fondamentaliste émettant depuis Arvada. Un jour, j'ai entendu un prêcheur commenter le texte suivant. « Une fois par génération, la peste descendra parmi eux. » J'ai été si séduit par cette phrase, qui ressemble à une citation de la Bible mais n'en est pas une, que je l'ai recopiée sur un bout de papier que j'ai punaisé au-dessus de ma machine à écrire. « Une fois par génération, la peste descendra parmi eux. » Cette phrase, l'article de journal et le roman de Stewart ont commencé à parasiter mon histoire de Pattyhurst. Et un jour, alors que j'étais assis devant mon clavier, mes yeux allant de cette sinistre homélie à ma feuille de papier désespérément vierge, j'ai écrit, juste pour écrire quelque chose, les mots suivants. « C'est la fin du monde, mais tous les membres de la SLA sont immunisés. Un serpent les a mordus. » J'ai contemplé ces mots, puis j'ai tapé « Plus de pénurie d'essence. » C'était une idée réjouissante, quoiqu'un peu sinistre. Plus de consommateurs, plus de files d'attente aux stations-service. Alors je me suis mis à taper de plus belle, plus de guerre froide, plus de pollution, plus de sacs en croco, plus de crimes, une saison de repos. Cette dernière phrase m'a particulièrement plu. Elle me semblait digne d'être retenue. Je l'ai donc soulignée. Puis je suis resté un quart d'heure sans rien faire, écoutant les Eagles sur mon petit magnéto à cassette, et ensuite j'ai écrit « Donald DeFries est un homme noir ». Je ne voulais pas dire par là que DeFries était de race noire. Je venais de me rappeler que sur les photos prises durant l'attaque de banque à laquelle avait participé Pattyhurst, on distinguait à peine le visage de DeFries. Il était coiffé d'un chapeau à large bord et ses traits étaient quasiment invisibles. J'ai écrit « Un homme noir sans visage ». Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu cette sinistre promesse. Une fois par génération, la peste descendra parmi eux. Et le tour était joué. J'ai passé les 2 années suivantes à écrire un livre apparemment interminable intitulé « Le fléau ». C'est devenu si pénible pour moi que j'en parlais à mes amis comme de mon petit Vietnam personnel, car j'étais sûr qu'au bout de 100 pages de plus, je commencerais à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Une fois achevé, le manuscrit faisait 1200 pages et pesait 6 kilos, le poids de ma boule de bowling préférée. Un beau soir de juillet, je l'ai porté de l'UN Plaza Hotel jusqu'à l'appartement de mon éditeur. Pour une raison connue d'elle seule,
ma femme l'avait emballé dans du film de congélation. Et après que je lui fais passer d'une main à l'autre pour la troisième ou la quatrième fois, j'ai eu une soudaine prémonition. J'allais mourir ici, dans la troisième avenue. Les ambulanciers allaient me trouver dans le caniveau, victime d'une crise cardiaque, terrassé par ce monstrueux manuscrit enveloppé de films plastiques transparents. Il m'est parfois arrivé de détester cordialement le fléau, mais pas une seule fois je n'ai envisagé de renoncer à l'écrire. Même lorsque ça se passait mal pour mes personnages de Boulder, ce bouquin éveillait en moi une joie un peu folle. Chaque matin, j'étais impatient de m'asseoir devant ma machine à écrire et de regagner ce monde où Randall Flagg était tantôt un corbeau et tantôt un loup, où l'enjeu de la lutte n'était pas une liasse de bons d'essence, mais le salut des âmes. J'avais quand même l'impression, il me faut bien l'avouer, de danser la gigue sur le tombeau de l'espèce humaine. Rappelez-vous que tout ceci se passait durant une période troublée pour la planète en général, et l'Amérique en particulier. Nous souffrions de la première crise de l'énergie de l'histoire. Nous venions d'assister à la débâcle de l'administration Nixon et à la première démission présidentielle de notre histoire. Nous venions de subir une défaite humiliante en Asie du Sud-Est, et nous avions à affronter tout un tas de problèmes intérieurs, de la controverse sur l'avortement à la spirale inflationniste. Moi, je souffrais de l'équivalent financier du décalage horaire. 4 ans auparavant, je bossais dans une blanchisserie industrielle pour 1,60 $ de l'heure et j'écrivais Carrie près de la chaudière de mon mobilhome. Ma fille, qui allait avoir 1 an, ne disposait que de grenouillères de seconde main. L'année précédente, j'avais épousé Tabitha dans un costume d'emprunt bien trop grand pour moi. J'ai quitté mon emploi à la blanchisserie quand un poste d'enseignant s'est libéré à la Hampden Academy, une école proche de notre domicile, et Tabby et moi avons découvert avec consternation que mon salaire annuel de 6 400 $ était à peine supérieur à celui que m'accordait la blanchisserie. Et l'été suivant, je me suis empressé de retourner bosser dans celle-ci. Puis Doubleday a acheté Carrie, et il en a revendu les droits de l'édition de poche pour une somme fabuleuse qui, à cette époque, représentait presque un nouveau record. Les événements se sont précipités. Carrie a été vendue à un producteur. Les droits de Salem ont été acquis pour une somme tout aussi fabuleuse, et le cinéma s'y est aussi intéressé. Idem pour Shining. Soudain, tous mes copains me croyaient riche. C'était grave. C'était terrifiant, mais le plus terrifiant, c'est que j'étais peut-être vraiment riche. On commençait à me parler d'investissements et d'avantages fiscaux, on me conseillait de déménager en Californie. Tous ces changements étaient difficiles à encaisser, mais par-dessus le marché, l'Amérique dans laquelle j'avais grandi semblait s'effriter sous mes pieds, un peu comme un gigantesque château de sable malencontreusement édifié au-delà de la ligne de haute mer. La première vague à avoir touché ce château, du moins la première que j'ai perçue, fut sans doute l'annonce de la mise en orbite de Spoutnik. Mais la marée montait désormais pour de bon. Et c'est là, je crois bien, que nous apparaît enfin le vrai visage du loup-garou. En surface, le fléau respecte les conventions que je viens de rappeler. Une société apollinienne est bouleversée par une force dionysiaque. Dans ce cas précis, une variété de supergrippe qui tue la quasi-totalité de la population. Ensuite, les rares survivants se divisent en 2 camps. Le premier, qui s'installe à Boulder, Colorado, reconstitue la société apollinienne qui vient d'être détruite, en lui apportant quelques changements significatifs. Le second est établi à Las Vegas, Nevada, et violemment dionysiaque. Le premier phénomène dionysiaque de l'exorciste se manifeste lorsque Chris McNeil, Ellen Burstyn, entend un rugissement de lion dans son grenier. Dans le fléau, Dionysos annonce sa venue lorsqu'une vieille Chevrolet défonce les pompes à essence d'une station-service d'un trou perdu du Texas. Dans l'exorciste, le statu quo apollinien est restauré lorsque nous voyons Regan McNeil se diriger au bras de sa mère vers la Mercedes-Benz familiale. Dans le fléau,
Cet instant survient, à mon sens, lorsque les deux personnages principaux, Stu Redman et Franny Goldsmith, contemplent le bébé parfaitement normal de Franny derrière une vitre de l'hôpital de Boulder. Tout comme dans l'exorciste, jamais l'équilibre ne nous a paru aussi parfait. Mais en profondeur, dissimulé, peut-être pas si bien que ça, par les conventions morales de l'histoire d'horreur, on aperçoit vaguement le visage du vrai loup-garou. Si j'ai éprouvé un tel enthousiasme à écrire le fléau, c'est de toute évidence parce que j'avais trouvé un remède radical au problème de notre société bloquée. Je me sentais un peu dans la peau d'Alexandre, levant son épée au-dessus du nœud gordien et grommelant « Rien à foutre de le dénouer, j'ai une meilleure idée ». Et je savais aussi ce que devait éprouver Johnny Rotten quand il lançait l'intro d'Anarchy for the UK, ce classique des Sex Pistols. Il pousse un sinistre gloussement, un rire sardonique digne de Randall Flagg et s'exclame « Right now !» Quand on entend sa voix, on ne peut que ressentir un intense soulagement. Le pire est désormais assuré, nous sommes entre les mains d'un authentique démon. Dans ce contexte, la destruction du monde tel que nous le connaissons devint une sinécure. Plus de Ronald McDonald, plus de gang show ni de soap à la télé, rien que de la neige lénifiante, plus de terroristes, plus de conneries, rien que le nœud gordien se dénouant dans la poussière. Ce que je veux suggérer ici, c'est que sous le masque de l'écrivain d'horreur moraliste, qui tel Henry Jekyll est la fleur même des convenances, se dissimule une créature d'une toute autre nature. Disons qu'elle demeure au troisième sous-sol, inventé par Jack Finney, et que c'est un nihiliste confirmé qui, pour prolonger cette métaphore Jekyll Hyde, ne se contente pas de piétiner les os fragiles d'une fillette, mais estime nécessaire de danser la gigue sur l'humanité tout entière. Oui, mes amis, le fléau m'a donné l'occasion d'annihiler l'espèce humaine, et j'ai pris un pied d'enfer. Et la morale dans tout ça ? Eh bien, voilà ce que j'en pense. Je pense que la morale est là où elle a toujours été, dans le cœur et l'esprit des hommes et des femmes de bonne volonté. Dans le cas de l'écrivain, ça veut dire qu'il débute par des prémices nihilistes et réapprend en chemin des principes anciens et des valeurs aussi anciennes. Dans le fléau, je postule que l'espèce humaine porte en elle une sorte de germe. Ce germe, d'abord symbolisé à mes yeux par la SLA, est devenu ensuite celui de la supergrippe, qui se fait de plus en plus virulent à mesure que la technologie accroît sa puissance. La supergrippe se répand suite à un seul faux pas technologique, ce qui n'a rien d'extraordinaire si l'on se rappelle les événements de Three Mile Island, ou l'alerte déclenchée il y a peu à la base aérienne de Loring. Les avions de chasse et les bombardiers étaient prêts à foncer vers la Russie suite à une erreur informatique de laquelle il ressortait que la Troisième Guerre mondiale venait d'être déclenchée. Comme je m'étais accordé une poignée de survivants, pas de survivants, pas d'histoire, d'accord ? J'ai pu envisager un monde où les silos à missiles rouilleraient en paix et où l'univers en folie qui est le nôtre retrouverait un semblant d'équilibre moral, politique et idéologique. Mais je suis d'avis qu'aucun d'entre nous ne sait ce qu'il pense, voir ce qu'il sait, tant qu'il ne l'a pas couché sur le papier. Et j'ai fini par comprendre que mes survivants auraient probablement tendance à reprendre leurs anciennes querelles, puis leurs anciennes armes. Et le pire dans l'histoire, c'est que tous ces joujoux meurtriers seraient à leur portée. La question étant alors de savoir quel groupe de cinglés serait le premier à apprendre comment s'en servir. La leçon que m'a apprise le fléau, c'est qu'il ne sert à rien de trancher le nœud gordien. Cela détruit l'énigme au lieu de la résoudre, et la conclusion du livre nous montre que l'énigme reste entière. Mon bouquin s'efforce aussi de célébrer ce qu'il y a de positif dans notre vie. Le courage, l'amitié et l'amour dans un monde qui en semble souvent dépourvu. En dépit de son thème apocalyptique, Le Fléau est un livre plein d'espoir, qui fait écho à la remarque d'Albert Camus selon laquelle le bonheur, lui aussi, est inévitable. Ou, plus prosaïquement, et comme disait ma mère,
Il faut s'attendre au pire et espérer le meilleur. »
Voilà qui résume parfaitement ce livre tel que je l'ai écrit. Si bien que nous espérons trouver un quatrième sous-sol, un loup-garou à triple détente, qui nous révélera l'écrivain d'horreur comme un être humain, tout simplement, un mortel ou une mortelle, un passager parmi tant d'autres sur notre bateau, un pèlerin parmi tant d'autres en quête d'un monde meilleur. Et s'il voit un autre pèlerin tomber par terre, nous espérons qu'il écrira son histoire. Mais pas avant de l'avoir aidé à se relever, d'avoir épousseté ses vêtements et de s'être assuré qu'il n'est pas blessé et qu'il peut continuer sa route. Et un tel comportement ne peut pas résulter d'une prise de position intellectuelle. Il résulte avant tout de l'amour, lequel est un fait, une force guidant l'être humain dans sa vie. La morale, après tout, n'est que la codification de toutes les choses que le cœur sait être vraies, de toutes les obligations d'une existence vécue parmi les autres, en un mot, de la civilisation. Et si nous ôtons l'étiquette horreur ou fantastique, pour la remplacer par celle de littérature, ou plus simplement de fiction, nous comprenons alors qu'il est injuste de proférer en bloc des accusations d'immoralité. Si nous postulons que la moralité est tout simplement la conséquence de la bonté d'âme, rien à voir avec les préceptes lénifiants et les gesticulations pompeuses, et l'immoralité, celle du manque de soin, de l'à peu près et de la soumission de l'art à la vénalité, ce dernier terme étant pris dans son sens le plus large, alors nous sommes en mesure de prendre une position à la fois humaine et efficace. La fiction, c'est la vérité à l'intérieur du mensonge. Et en ce qui concerne l'histoire d'horreur, mais pas elle seule, la même règle s'applique aujourd'hui qui s'appliquait lorsqu'Aristophane a raconté son histoire de grenouille. La morale, c'est dire la vérité que recèle votre cœur. Quand on lui demanda s'il n'avait pas honte du caractère cru et sordide de son roman Les Rapaces, Frank Norris répondit « Pourquoi aurais-je honte? Je n'ai pas menti. Je n'ai pas fléchi, j'ai dit la vérité. » Vu sous cet angle, je pense que l'histoire d'horreur est plus souvent innocente que coupable. 17.
Regardez-moi ça. On dirait bien que le soleil se lève. Nous avons dansé toute la nuit, comme un couple d'amoureux dans une comédie musicale de la MGM. Mais les musiciens ont rangé instruments et partitions et ils ont quitté la scène. Tous les danseurs sont partis, sauf vous et moi. Et je suppose qu'on devrait s'en aller, nous aussi. Je ne saurais vous dire à quel point j'ai apprécié cette soirée. Et s'il vous est parfois arrivé de me trouver maladroit, ou si je vous ai parfois marché sur les pieds, je vous prie de m'en excuser. Comme tous les amoureux du monde à la fin de leur premier bal, je me sens épuisé, mais toujours gai. Puis-je encore vous dire une chose pendant que je vous raccompagne? Arrêtons-nous au vestiaire tandis qu'on range les tapis et qu'on éteint les lumières. Laissez-moi vous aider à enfiler votre manteau, je ne vous retiendrai pas très longtemps. Le problème de la morale chez l'écrivain d'horreur ne doit pas nous faire oublier la vraie question. Il existe une expression russe à propos du cri du coq de bruyère. C'est une expression empreinte de dérision, car le coq de bruyère est un animal ventriloque. Si vous prenez pour cible l'endroit d'où provient son cri, vous ne le mangerez pas pour dîner. Vise le coq. « Ne vise pas son cri, » disent les Russes. Voyons si nous arrivons à trouver un coq de bruyère, rien qu'un, au milieu de tous ces buissons hurlants. Peut-être se dissimule-t-il dans cette histoire vraie, extraite de « The Book of List », ce bouquin du clan Wallace-Walachinsky qui ressemble à un grenier débordant d'objets fascinants. Pensez-y donc un peu avant de partir. Méditez un peu là-dessus. Le mystère de Miss Person. Le 6 juillet 1944, le cirque Ringling Brothers and Barnum and Bailey donnait une représentation à Hartford, Connecticut, devant 7000 personnes. Un incendie éclata. 168 personnes périrent dans les flammes et 487 autres furent blessées. Parmi les morts se trouvait une petite fille âgée de 6 ans environ qui demeura non identifiée.
Comme personne n'était venu réclamer son corps, et comme son visage était intact, on publia sa photo dans la région, puis sur tout le territoire des États-Unis. Des jours passèrent, puis des semaines, puis des mois, mais personne, ni parent ni ami, ne se manifesta. Son identité demeure inconnue à ce jour. Devenir adulte, à mes yeux, c'est se confectionner des œillères mentales et encourager l'ossification de ses facultés imaginatives. Et Miss Personne, me demandez-vous? Patientez un peu, on va y venir. Les enfants voient tout, perçoivent tout. L'expression typique du bébé bien nourri, bien propre et bien réveillé, est celle d'une personne fascinée par tout ce qui bouge. « Salut, enchanté de faire votre connaissance. Je ne sais plus où donner du regard. » Un enfant n'a pas encore acquis les formes de comportement obsessionnel que nous appelons les bonnes habitudes. Il ou elle n'a pas encore assimilé la notion selon laquelle la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Tout ceci arrive plus tard. Les enfants croient au Père Noël. Rien d'extraordinaire, une donnée parmi tant d'autres. De même, ils croient au croque-mitaine, au lapin de Pâques, à McDonaldland, un pays où les hamburgers poussent sur les arbres et où le vol à petite échelle est autorisé, voire l'aimable Hamburglar, à la petite souris qui vous échange une pièce d'argent contre un morceau d'ivoire. Toutes ces choses leur paraissent comme allant de soi. Et je n'ai mentionné que certains des mythes les plus populaires. Il en existe d'autres encore plus outrés. Papy est allé vivre chez les anges. Les balles de golf contiennent un poison mortel. Si vous marchez sur une fissure, vous brisez le dos de votre maman. Si vous traversez un buisson de houx, votre ombre s'accrochera aux épines et sera emprisonnée pour l'éternité. Les changements s'instaurent peu à peu, à mesure que la logique et le rationalisme prennent le dessus. L'enfant commence à se demander comment le Père Noël arrive à se trouver simultanément au coin de la rue, en train de faire la quête pour l'armée du salut, et au pôle Nord en train de diriger son usine de lutins. L'enfant se rend compte qu'il a peut-être marché sur un bon millier de fissures sans que le dos de sa maman en souffre pour autant. L'âge envahit peu à peu les traits de cet enfant. « Ne fais pas ton bébé !» lui dit-on d'un air irrité. « Tu as toujours la tête dans les nuages !» Et le bouquet final, « Quand donc vas-tu te décider à grandir ?» À en croire la chanson, Puff le dragon magique a un beau jour arrêté de remonter Cherry Lane pour aller voir son ami Jackie Paper. Wendy et ses frères ont un beau jour abandonné Peter Pan et les garçons perdus. Plus de poussière magique, plus que quelques pensées heureuses de temps à autre. Mais Peter Pan a toujours semblé un peu dangereux, n'est-ce pas? Un peu trop sauvage. Il y avait dans ses yeux une lueur, eh bien une lueur franchement dionysiaque. Oh, les dieux de l'enfance sont immortels. Les grands ne les sacrifient pas sur l'autel de la raison. Ils se contentent de les transmettre à leurs morpions de petits frères et à leurs chipis de petites sœurs. C'est l'enfance qui est mortelle. L'homme est amoureux et aime ce qui s'enfuit. Et il n'y a pas que Puff le dragon, Peter Pan et la fée Clochette pour être délaissés en faveur du permis de conduire, du bac et de la licence, de ce processus d'acquisition des bonnes habitudes. Nous avons tous exilé la petite souris. Ou peut-être nous a-t-elle exilé quand nous sommes devenus incapables de lui fournir son ivoire. Nous avons assassiné le Père Noël, le ressuscitant ensuite pour le bénéfice de nos enfants. Nous avons tué le géant qui chassa Jack sur son haricot magique. Et ce pauvre vieux croque-mitaine. Tué à coups d'éclat de rire, tout comme Mr. Dark lors de la conclusion de la Foire des Ténèbres. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. Quand on atteint ses 18 ans ou ses 21 ans, soit l'âge à partir duquel on peut consommer de l'alcool dans l'état où l'on demeure, c'est toujours gênant de se faire demander ses papiers. On doit fouiller dans son portefeuille à la recherche d'un permis de conduire, d'une carte d'identité ou d'une photocopie de son extrait d'acte de naissance, et tout ça pour siroter une malheureuse bière. Mais 10 ans plus tard, quand on commence sérieusement à approcher de la trentaine, c'est stupidement flatteur d'avoir approuvé son âge. Ça veut dire qu'on n'a pas l'air de quelqu'un qui est en droit de s'asseoir au bar, qu'on n'a pas l'air de quelqu'un qui a le droit de vote,
qu'on a encore l'air jeune. J'ai eu cette révélation il y a quelques années, alors que j'étais en train de me pinter dans un bar de Bangor du nom de Benjamin's. Je me suis mis à examiner les clients qui entraient. Le videur, discrètement posté près de la porte, laisse passer celui-ci, puis celui-là, puis cet autre, et puis bang ! Voilà qu'il arrête un type vêtu d'un t-shirt de l'université du Maine pour lui demander ses papiers. Et que je sois damné si le type en question n'a pas tourné les talons. À l'époque, il fallait avoir 18 ans pour avoir le droit de boire un pot dans le Maine. Suite à la recrudescence des accidents de la route causés par l'alcool, l'âge légal a été depuis porté à 20 ans par le législateur. Et les trois clients précédents m'avaient paru âgés de 18 ans à peine. Je suis allé voir le videur pour lui demander comment il avait su que le quatrième était trop jeune. Il a haussé les épaules.
« Ça se voit, » m'a-t-il dit, « surtout dans les yeux. »
Durant les semaines suivantes, je me suis amusé à examiner les visages d'adultes dans le but de repérer ce qui faisait d'eux des visages adultes. Un homme de 30 ans a un visage sain, exempt de rides, et guère plus développé que celui d'un adolescent de 17 ans. Mais on sait que ce n'est pas un gamin, on le sait. Son visage est pourvu d'un quelque chose qui fait de lui un visage adulte. Rien à voir avec ses fringues ni avec sa démarche. Et ne me dites pas que l'adulte a un attaché case et l'adolescent un sac à dos. Si on les habille tous les deux en costume de marin ou en tenue de boxeur, on reconnaît quand même l'adulte 10 fois sur 10. J'ai fini par conclure que le videur avait raison. C'est dans les yeux. Et ce n'est pas quelque chose qui y est resté. C'est plutôt quelque chose qui en est parti. Les enfants sont tordus. Ils pensent autour des coins. Mais à partir de 8 ou 9 ans, lorsque débute la deuxième époque de l'enfance, ils commencent à se redresser insidieusement. Les frontières se dessinent peu à peu dans notre esprit, les œillères se placent doucement autour de nos yeux. Et finalement, incapables de retirer un quelconque profit du pays imaginaire, nous nous contentons d'un quelconque ersatz, à savoir la boîte de nuit la plus proche ou un séjour à Disney World. L'imagination est un œil, un extraordinaire troisième œil qui flotte librement au-dessus de nos têtes. Durant l'enfance, nous avons 10 sur 10 à cet œil. À mesure que nous grandissons, sa vision devient de plus en plus floue, jusqu'au jour où le videur nous laisse entrer dans le bar sans nous demander nos papiers. Et c'en est fini. Nous avons dit adieu à l'enfance. C'est dans les yeux. Quelque chose dans vos yeux. Regardez-vous dans la glace et dites-moi que je me trompe. Le travail de l'écrivain de fantastique ou d'horreur consiste à vous ôter vos œillères pour quelque temps, à offrir un spectacle fabuleux à votre troisième œil. Le travail de l'écrivain de fantastique ou d'horreur consiste à vous faire retomber en enfance pour un temps. Et que dire de l'écrivain d'horreur lui-même? Si un autre que lui venait à lire l'histoire de Miss Person, je vous avais dit qu'on y reviendrait. Et elle est toujours là, toujours non identifiée, aussi mystérieuse que l'enfant loup de Paris. Il se contenterait de dire « Eh ben ça alors !» et passerait à autre chose. Mais le fantastiqueur se mettra à jouer avec cette histoire comme le ferait un enfant, imaginant des êtres venus d'une autre dimension, des doppelgangers ou Dieu sait quoi. C'est pour lui un jouet, un extraordinaire jouet étincelant. Tirons sur ce levier pour voir ce qui se passe. Faisons le rouler par terre pour voir s'il fait vroom vroom ou tac à tac. Retournons-le pour voir s'il va se redresser comme par magie. Bref, c'est comme ça que nous avons des pluies de grenouilles et des personnes victimes de combustion spontanée, des vampires et des loups-garous. C'est comme ça que nous avons Miss Person, qui a peut-être traversé une fêlure dans la réalité pour se faire piétiner par des gens fuyant un cirque en flammes. Et ceci se reflète dans les yeux des écrivains d'horreur. Ray Bradbury a les yeux rêveurs d'un petit garçon. Et Jack Finney aussi, derrière les verres de ses lunettes. La même expression habite les yeux de Lovecraft. Leur acuité est saisissante, encore accentuée par son visage étroit et pincé de bon citoyen de la Nouvelle-Angleterre. Harlan Ellison, en dépit de son débit étourdissant, quand on discute avec Harlan,
on a parfois l'impression d'avoir affaire à un VRP apocalyptique shooté aux amphétamines. A aussi ces yeux-là. De temps à autre, il se tait. Il détourne les yeux. Il regarde l'invisible. Et vous comprenez que c'est bien vrai. Harlan est tordu, et il vient de penser autour d'un coin. Peter Straub, qui est toujours vêtu de façon impeccable et projette une aura de cadre supérieur en pleine ascension, a lui aussi le même regard. C'est un regard indéfinissable, mais il est là, et bien là.
C'est le plus beau train électrique qu'un garçon ait jamais eu, a dit un jour Orson Welles en parlant du cinéma. La même remarque s'applique aux livres et aux histoires. Enfin une chance de pulvériser ces satanées œillères et de faire apparaître, ne serait-ce qu'un instant, un paysage onirique peuplé d'horreurs et de merveilles, aussi clair et détaillé, aussi magique et réel que la première grande roue que vous ayez jamais vue, tournant lentement sur fond de ciel étoilé. Feu, le fils de la voisine, apparaît sur l'écran de télévision. Un homme sinistre, le croque-mitaine, rôde dans la nuit, les yeux étincelants. Deux garçons font virevolter les feuilles d'automne devant la bibliothèque à 4 heures du matin, et en un autre lieu, en un autre monde, alors même que j'écris ces lignes, Frodon et Sam se dirigent vers Mordor, là où règnent les ombres. J'en suis persuadé. Prêt à partir ? Bien. J'attrape mon manteau. Ce n'est pas une danse de mort, après tout. Il y a un troisième sous-sol, ici aussi. C'est une danse des rêves. C'est une façon de réveiller l'enfant qui sommeille en vous. Un enfant qui n'est pas mort, mais qui dort profondément. Si l'histoire d'horreur est une répétition de notre mort, alors sa morale stricte en fait également une réaffirmation de la vie, de la bonne volonté et tout simplement de l'imagination. Un conduit vers l'infini. Dans le poème épique où il raconte la chute mortelle d'une hôtesse de l'air au-dessus des prairies du Kansas, James Dickey nous offre une métaphore de la vie de l'être rationnel, qui doit faire de son mieux pour appréhender sa propre mortalité. Nous tombons d'une matrice à une autre, d'une ténèbre à une autre, ayant presque tout oublié de l'une et ignorant tout de l'autre, sauf par un acte de foi. Que nous conservions notre santé mentale face à ces mystères tout simples mais aveuglants, voilà qui est presque divin. Que nous puissions les éclairer à la lueur de notre imagination, que nous puissions les examiner dans ce miroir onirique, que nous puissions, même timidement, placer nos mains dans la faille ouverte au centre du pilier de la vérité, c'est... Eh bien, c'est de la magie, pas vrai ? Oui. Je crois que je vais vous quitter avec ce mot plutôt qu'avec un baiser d'adieu. Ce mot que les enfants respectent instinctivement, ce mot dont, une fois adultes, nous ne redécouvrons la vérité que dans nos histoires et dans nos rêves. La magie.